Chapitre 15. Venise du 10 au 17 septembre 1833. Course en gondole. Poésie. Catéchisme à Saint-Pierre. Un aqueduc. Dialogue avec Una pescatrice. La Giudeca. Femme juive. Dimanche 15, le patriarche promu au cardinalat prit le chapeau avec les cérémonies d'usage. Les cloches sonnaient, la ville s'éjouissait. Les femmes, en grande toilette, étaient assises sous les arcades de la place au café Florian, Quadri, Léonie, Soutil. M. Gamba m'assurait qu'elles étaient rassemblées en si grand nombre dans l'espoir de me voir, qu'elles avaient monté sur les bancs et sur les bases des colonnes de Saint-Marc lorsque le bruit s'était répandu de mon entrée dans la basilique, que je rencontrerais la Vénitienne dont la beauté dédaigneuse m'avait charmée chez Mme Albrizzi. Je croyais peu à ces pantalonnades de la flatterie italienne, de qui pourtant ma vanité se rengorgeait. Mais mon humble instinct l'emportait sur ma grande homie. Monsieur du Corbeau, au lieu de chanter, fut saisi de frayeur. Je me hâtai de fuir par timidité, défiance de moi, horreur des scènes, goût d'obscurité et de silence. Je me jetai dans une gondole et m'en allai avec Hyacinthe et Antonio parcourir le labyrinthe des canaux les plus infréquentés. On n'entendait que le bruit de nos rames au pied des palais sonores, d'autant plus retentissants qu'ils sont vides. Tel d'entre eux, fermé depuis 40 ans, n'a vu entrer personne. Là sont suspendus des portraits oubliés qui se regardent en silence à travers la nuit. Si j'avais frappé, ils seraient venus m'ouvrir la porte, me demander ce que je voulais et pourquoi je troublais leur repos. Rempli du souvenir des poètes, la tête montée sur les amours de jadis, Saint-Marc de Venise et Saint-Antoine de Padoue savent les superbes histoires que je rêvais, en passant au milieu des rats qui sortaient des marbres. Au pont de Bianca Capello, je fis un roman romantique sans pareil. Oh, que j'étais jeune, beau, favorisé, mais aussi que de péril, une famille hautaine et jalouse, des inquisiteurs d'État, le pont des soupirs où l'on entend des cris lamentables. Que la chiourme soit prête, aviron léger, fendez les flots, emportez-nous au rivage de Chypre. Prisonnière des palais, la gondole attend ta beauté à la porte secrète sur la mer. Descends, fille adorée, toi dont les yeux bleus dominent le lys de ton sein et la rose de tes lèvres, comme l'azur du ciel sourit à l'émail du printemps. Tout cela m'a mené à Saint-Pierre, l'ancienne cathédrale de Venise. De petits garçons répétaient le catéchisme en s'interrogeant les uns les autres sous la direction d'un prêtre. Leurs mères et sœurs, la tête enveloppée d'un mouchoir, les écoutaient debout. Je les regardais. Je regardais le tableau d'Alexandre Lazzarini qui représente Saint-Laurent Giustiniani distribuant son bien aux pauvres. Puisqu'il était en train, il aurait bien dû étendre ses bienfaits jusqu'à nous, troupe de gueux encombrés dans son église. Quand j'aurai dépensé l'argent de mon voyage, que me restera-t-il? Et ces adolescentes déguenillées continueront-elles à vendre aux Levantins 2 baisers pour un bayoque? De l'extrémité orientale de Venise, je me fis conduire à l'extrémité opposée, girando à travers les lagunes du nord. Nous côtoyâmes la nouvelle île formée par les Autrichiens, avec des gravois et des masses de vases. C'est sur ce sol émergent qu'on exerce les soldats étrangers oppresseurs de la liberté de Venise. Cybèle, cachée dans le sein de son fils, Neptune, n'en sort que pour le trahir. Je ne suis pas impunément de l'Académie, et je sais mon style classique. Il a existé un projet de joindre Venise à la terre ferme par une chaussée. Je m'étonne que la République, au temps de sa puissance, n'ait pas songé à conduire des sources à la ville au moyen d'un aqueduc. Le canal aérien courant au-dessus de la mer dans les divers accidents de la nuit et du jour, du calme et de la tempête, voyant passer les vaisseaux sous ses portiques, aurait augmenté la merveille de la cité des merveilles. La pointe occidentale de Venise est habitée par les pêcheurs des lagunes. Le bout du quai des Esclavons est le refuge des pêcheurs de haute mer. Les premiers sont les plus pauvres. Leurs cahutes, comme celles d'Olpis et d'Asphalion, dans Théocrite, n'ont d'autres voisines que la mer dont elles sont baignées. Là, j'aurais pu nouer quelque intrigue avec Checa ou Orsetta de la comédie des Baruffe qui ozote. Nous hélâmes à terre una ragazza qui côtoyait la rive. Antonio intervenait dans les endroits difficiles du dialogue. « Carina, voulez-vous passer à la Giudecca ? Nous vous prendrons dans notre gondole. »« Sior, né, voa Granzi. Non, monsieur, je vais au crabe. »« Nous vous donnerons un meilleur souper. »« Col donna mare ? Avec madame ma mère ? Si vous voulez. »« Ma mère est dans la tartane avec Monsieur Paré. » Avez-vous des sœurs ? No. Des frères ? Uno, Tonino. Tonino, âgé de 10 à 12 ans, parut, coiffé d'une calotte grecque rouge, vêtu d'une seule chemise serrée au flanc. Ses cuisses, ses jambes et ses pieds nus étaient bronzés par le soleil. Il portait à deux mains une navette remplie d'huile. Il avait l'air d'un petit triton. Il posa son vase à terre et vint écouter notre conversation auprès de sa sœur. Bientôt arriva une porteuse d'eau que j'avais déjà rencontrée à la citerne du palais ducal. Elle était brune, vive, gaie. Elle avait sur sa tête un chapeau d'homme mis en arrière, et sous ce chapeau, un bouquet de fleurs qui tombait sur son front avec ses cheveux. Sa main droite s'appuyait à l'épaule d'un grand jeune homme avec lequel elle riait. Elle semblait lui dire à la face de Dieu et à la barbe du genre humain « Je t'aime à la folie ». Nous continuâmes à échanger des propos avec le joli groupe. Nous parlâmes de mariage, d'amour, de fêtes, de danse, de la messe de Noël célébrée autrefois par le patriarche et servie par le doge. Nous devisâmes du carnaval. Nous raisonnâmes de mouchoirs, de rubans, de pêcheries, de filets, de tartane, de fortune de mer, de joie de Venise. Bien qu'excepté Antonio, aucun de nous n'eût vu ni connu la République, tant le passé était déjà loin. Cela ne nous empêcha pas de dire avec Goldoni « Semo donne da ben et semo donne onorate, ma semo allegre, e volemo stare allegre, e volemo baliare, e volemo saltare. » Et viva il chiozzotti, et viva les chiozzotte. Nous sommes des femmes de bien, et nous sommes des femmes d'honneur, mais nous sommes gais, et nous voulons rester gais, et nous voulons danser, et nous voulons sauter, et vive les chiozzotto, et vive les chiozzotte. En 1802, je dînais à la Rapée, avec madame de Staël et Benjamin Constant. Les bateliers de Bercy ne nous firent pas tableau. Il faut à Léopold de Robert les pêcheurs des lagunes et le soleil de la Brenta. Connais-tu cette terre où les citronniers fleurissent ? Chante Mignon, l'italienne expatriée. Goethe. La Giudecca où nous touchâmes en revenant conserve à peine quelques pauvres familles juives. On les reconnaît à leurs traits. Dans cette race, les femmes sont beaucoup plus belles que les hommes. Elles semblent avoir échappé à la malédiction dont leurs pères, leurs maris et leurs fils ont été frappés. On ne trouve aucune juive mêlée dans la foule des prêtres et du peuple qui insulta le Fils de l'homme, le flagella, le couronna d'épines, lui fit subir les ignominies et les douleurs de la croix. Les femmes de la Judée crurent au Sauveur, les mères le suivirent, l'assistèrent de leurs biens, le soulagèrent dans ses afflictions. Une femme à Béthanie versa sur sa tête le nard précieux qu'elle portait dans un vase d'albâtre. La pécheresse répandit une huile de parfum sur ses pieds et les essuya avec ses cheveux. Le Christ, à son tour, étendit sa miséricorde et sa grâce sur les Juives. Il ressuscita le fils de la veuve de Naïm et le frère de Marthe. Il guérit la belle-mère de Simon et la femme qui toucha le bas de son vêtement. Pour la Samaritaine, il fut une source d'eau vive, un juge compatissant pour la femme adultère. Les filles de Jérusalem pleurèrent sur lui. Les saintes femmes l'accompagnèrent au calvaire, achetèrent du baume et des aromates, et le cherchèrent au sépulcre en pleurant. Mulier quid ploras. Sa première apparition, après sa résurrection glorieuse, fut à Madeleine. Elle ne le reconnaissait pas, mais il lui dit « Marie ». Au son de cette voix, les yeux de Madeleine s'ouvrirent et elle répondit « Mon maître !» Le reflet de quelques beaux rayons sera resté sur le front des Juives. Chapitre 16. Venise du 10 au 17 septembre 1833. 9 siècles de Venise, vue de la Piazzetta. Chute et fin de Venise. Le dimanche n'était pas fini et je craignais toujours d'aborder la grande place aux 300 belles femmes. Henri IV disait des filles d'honneur de Catherine de Médicis, « Je n'ai point vu d'escadron plus périlleux. » Après mon dîner, je hasardai un débarquement à l'escalier de la Piazzetta. Le temps était équivoque. Il pleuvait par intervalles, la brise autorisait une augmentation de vêtements. Ma gloire, enveloppée dans un manteau, opéra sa descente, heureusement sans être reconnue. Le ciel gris semblait en deuil. Je fus plus frappé que jamais de l'esclavage de Venise, en me promenant devant les canons autrichiens, au pied du palais ducal. M. Gamba m'avait recommandé, si je voulais apercevoir d'un coup d'œil 9 siècles de l'histoire vénitienne, de m'arrêter près des 2 grandes colonnes, dans l'endroit où le café de la Piazzetta confine à la lagune. Je lus, en effet, autour de moi, ces chroniques de pierre écrites par le temps et les arts. 11e siècle, Il Campanile, ou le clocher de Saint-Marc, commencé par Nicolas Barattieri, architecte lombard. 12e siècle, la façade d'un côté de la basilique de Saint-Marc, architectes inconnus. 13e siècle, le palais ducal de Philippe Calendario, vénitien. 14e siècle, la tour de l'horloge élevée par Pierre Lombardi. 15e siècle, les procuratiers Vecchier de Bartolomé Bono de Bergame. 16e siècle, la bibliothèque, à présent le palais royal, et la Zecca, ou l'hôtel de la Monnaie, de Sansovino, florentin. 17e siècle, l'église de Sainte Maria della Salute, sur la rive opposée du Grand Canal, ouvrage de Balthazar Longhena. 18e siècle, la douane de mer, de Joseph Benoni. 19e siècle, le café ou pavillon, dans le jardin du palais royal, sur la lagune. Architecte vivant, le professeur Santi. Venise commence à un clocher et finit à un café. À travers la succession des âges et des chefs-d'œuvre, elle va de la basilique de Saint-Marc à une guinguette. Rien ne témoigne mieux du génie du temps passé et de l'esprit du temps présent, du caractère de l'ancienne société et des mœurs de la société moderne, que ces 2 monuments. Ils respirent leur siècle. Les 3 Venises, la Vénétia des Romains, la Vénétia des Lagunes, créées par les populations échappées au fléau de Dieu, Attila, la Vénétia ou la Venise concentrée qui fit oublier les 2 autres. Cette dernière Venise, que Pétrarque surnomma Aurea, et dont les pierres étaient dorées et peintes, au dire de Philippe de Comines. La Venise qui posséda 3 royaumes, la Venise dont les cités en terre ferme ont suffi pour donner des noms illustres aux capitaines de Bonaparte. Cette république, enfin, n'a point péri comme tant d'autres États par un fait d'armes de la France. Attaquée de simples menaces, elle succomba, sans essayer même de se relever. Au XIIIe et XIVe siècle, Venise fut toute puissante sur mer, au XVe sur terre. Elle se soutint dans le XVIe, déclina au XVIIe et dégénéra durant ce XVIIIe siècle, dans lequel fut rongé et dissous l'ancien ordre européen. Les nobles du Grand Canal devinrent des croupiers de Pharaon, et les négociants, d'oisifs campagnards de la Brenta. Venise ne vivait plus que par son carnaval, ses polichinelles, ses courtisanes et ses espions. Son doge, Géronte impuissant, renouvelait en vain ses noces avec l'Adriatique adultère. Et toutefois, les forces matérielles ne manquaient point encore à la République. Lorsqu'en 1797, elle eût laissé envahir son territoire continental. Il lui restait pour la défense de ses possessions insulaires 205 bâtiments armés de 750 pièces d'artillerie et montés par 2516 hommes. Cette batterie est fort, 11 000 soldats dalmates et 3500 italiens, une population de 150 000 âmes, 800 bouches à feu autour des lagunes. Hors de la portée effective du canon et de la bombe, Venise était d'autant plus imprenable qu'elle manquait de sol pour y débarquer. Les assiégeants, n'y pouvant aborder que dans des barques, auraient été exposés sur des canaux étroits aux projectiles des assiégés retranchés dans les maisons, les églises, les édifices riverains. Maître de la place Saint-Marc, du palais du Doge, de l'arsenal, on ne serait encore maître de rien. Si Venise se défendait, on la pourrait brûler, non la prendre. Les habitants auraient de plus une retraite assurée sur leurs vaisseaux. Dans de pareils moments, le souvenir de la gloire nationale est une vraie puissance. Certes, les ombres des Barbarigo, des Pesaro, des Zeno, des Morosini, des Loredano, venant repeupler leurs foyers en péril et combattant aux fenêtres de leurs palais, ne seraient pas des ombres vaines. Venise, en 1797, outre les forces que je viens d'énumérer, avait de l'argent pour les accroître et un crédit supérieur à son trésor. L'Angleterre, en guerre avec nous, se serait empressée de lui envoyer ses soldats et ses flottes. L'Autriche, qui sollicitait son alliance, pouvait descendre au quai des Esclavons 10 000 grenadiers hongrois pris au port de Fiume ou de Trieste. Le directoire, incapable de se saisir d'un écueil gardé par une poignée de marins anglais sur les côtes de Normandie, aurait-il pu s'emparer de Venise, complètement armée et couverte de ses vaisseaux? Les Français n'avaient à Malguéra que 300 hommes et une seule pièce de canon de petit calibre. Il manquait même de barques. Venise n'avait pas tous ses moyens de défense lorsqu'en 1700, Addison la trouvait déjà imprenable. It has neither works nor fortifications near it, and yet is, perhaps, the most impregnable town in Europe. Elle n'a ni rochers ni fortifications autour d'elle, et cependant elle est peut-être la ville la plus imprenable de l'Europe. Il remarque que du côté de la terre ferme, on n'y pourrait pas arriver sur la glace comme en Hollande, que du côté de l'Adriatique, l'entrée du port est étroite, les canaux navigables difficiles à connaître, qu'on se hâterait à l'approche des flottes ennemies de couper les balises qui dessinent ces canaux. Si l'on suppose un blocus rigoureux de terre et de mer, dit toujours Addison, les Vénitiens se défendraient encore contre tout, excepté contre la famine. Celle-ci même serait fort mitigée par la quantité de poissons dont ces mers abondent et que les habitants de la ville insulaire pêchent au milieu de leurs rues même, in the midst of their very streets. Eh bien, quelques lignes méprisantes de la main de Bonaparte suffirent pour renverser la cité antique où dominait une de ces magistratures terribles qui, selon Montesquieu, ramènent violemment l'État à la liberté. Ces magistrats, jadis si fermes, obtempérèrent en tremblant aux injonctions d'un billet écrit sur un tambour. Le Sénat ne fut point convoqué. La Signoria pleura, trahie et consternée. Louis Manin, le 120e et dernier doge, au milieu de ses sanglots et de ses larmes, offrit d'une voix chevrotante son abdication. Les dalmates furent congédiés, les vaisseaux retirés. Le 12 de mai 1797, le Grand Conseil adopta le système de gouvernement représentatif provisoire afin de se conformer aux désirs de Bonaparte. Sempre che con questo, sin contrino i deriderii del generale medesimo. L'esclavage de la République victorieuse des siècles, de l'immortelle patrie de Dandolo, se négociait non sur un champ de bataille, ou dans le sein d'une nouvelle ligue de Cambrai, mais à Venise même, par un obscur secrétaire de légation, mort depuis dans la maison des fous, à Charenton. 4 jours après la décision du Conseil, le 16 mai, nos soldats embarqués paisiblement en gondole, l'arme au bras et sans brûler une amorce, prirent possession de la colonie vierge de l'Ancien Monde. Qui la livra aux joues d'une manière en apparence si inexplicable, si extraordinaire? Le temps et une destinée accomplie. Les contorsions du grand fantôme révolutionnaire français, les gestes de cet étrange masque arrivé au bord de la plage, effrayèrent Venise affaiblie par les années. Elle tomba de peur et se cacha sous les langes de son berceau. Ce ne fut pas notre armée qui traversa réellement la mer, ce fut le siècle. Il enjamba la lagune et vint s'installer dans le fauteuil des doges, avec Napoléon pour commissaire. Le conseil ne parla pas de donner la question aux deux voyageurs et de les enfermer sous les plombs. Il leur remit le lion de Saint-Marc, les clés du palais et le bonnet ducal. Le pont des soupirs n'entendit plus passer personne. Depuis cette époque, Venise décrépite, avec sa chevelure de clocher, son front de marbre, ses rides d'or, a été vendue et revendue, ainsi qu'un ballot de ses anciennes marchandises. Elle est restée au plus offrant et dernier enchérisseur, l'Autriche. Elle languit maintenant, enchaînée au pied des Alpes du Frioul, comme jadis la reine de Palmyre, au pied des montagnes de la Sabine. Chapitre 17. Venise du 10 au 17 septembre 1833. Le Lido, fête vénitienne, lagune quand je quittais Venise pour la première fois. Nouvelle de Madame la Duchesse de Berry, cimetière des Juifs. Tous les lundis du mois de septembre, le peuple de Venise va boire et danser au Lido. Comme il avait plu les deux lundis précédents, on s'attendait le lundi 16 à une grande presse si le temps était favorable. J'étais curieux de ce spectacle. J'avais une autre raison d'aller au Lido, à savoir mon envie de dire un mot de tendresse à la mère, ma mignonne, ma maîtresse, mes amours. Les hommes à patrie méditerranée ne les rencontrent plus quand ils les ont quittés. Nous autres, nés que nous sommes dans les vagues, avons une chance plus heureuse. Notre patrie, la mer, embrasse le globe. Nous la retrouvons partout. Elle semble nous suivre et s'exiler avec nous. Son visage et sa voix sont les mêmes en tout climat. Elle n'a point d'arbres et de vallons qui changent de forme et d'aspect. Seulement, elle nous paraît plus triste, comme nous le sommes nous-mêmes, à des bords lointains et sous un autre soleil. À ses bords, elle a l'air de nous dire « Suspends tes pas ainsi que je vais retirer mes flots pour te reporter à notre rivage. » Le Lido, île longue et étroite, s'étend du nord-est au sud-ouest, en face de Venise, et sépare les lagunes de l'Adriatique. À son extrémité orientale est le fort San Nicolo, sous lequel tourne la passe des petits bâtiments. Son extrémité occidentale est défendue par le fort d'Egli Alberoni, où s'embouche le chenal des grands navires. Le fort San Nicolo est en face du château de Saint-André. Le fort d'Egli Alberoni regarde le port de Malamocco et le littoral de Palestrine. Sur le Lido même, en dedans des lagunes, on aperçoit le village de Sainte-Marie-Élisabeth et un hameau composé de 3 ou 4 cabanes. Celle-ci servait d'écurie aux chevaux de Lord Byron. Le contraste que présentent les deux bords du Lido est bien peint par M. Naudier. Guillemets. Du côté seulement où il a vu sur Venise, le Lido est couvert de jardins, de jolis vergers, de petites maisons simples mais pittoresques. De là, Venise se développe aux yeux dans toute sa magnificence. Le canal couvert de gondoles présente dans sa vaste étendue l'image d'un fleuve immense qui baigne le pied du palais ducal et les degrés de Saint-Marc. Fin des guillemets. Il faut seulement aujourd'hui retrancher de cette description les jolis vergers, les petites maisons simples mais pittoresques, et mettre en leur place quelques baraques, des plates-bandes de légumes et des taillis de roseaux croissants dans des eaux saumâtres. Malheureusement, étant parti assez tard de Venise, je fus pris de la pluie en débarquant au Lido à l'orée du fort San Nicolo, et je n'eus pas le temps de traverser l'île pour aller à la mer. dans l'intérieur des terrains du fort, ont lieu les danses sous des mûriers, des saules, des noyers et des cerisiers. Mais ces ombrages étaient presque déserts. À des tables mangeaient avidement quelques ragazzés et quelques mariniers. On criait et l'on portait çà et là la zucca arrostita. On buvait à même des bouteilles aux longs et minces goulots. Deux ou trois groupes dépêchaient en tumulte une farandole au son d'un méchant violon. Scènes inférieures en tout à la Salteria dans les jardins de la Villa Borghese. Un génie moqueur semblait s'être amusé à déjouer les idées que je m'étais formée des fêtes vénitiennes, d'après Madame Renier Micheli. Au Lido se célébrait à l'Ascension le mariage de la mère et du doge. Le Bucentaure, ainsi nommé d'une galère d'aînés, couronné de fleurs comme un nouvel époux, s'avançait au milieu des flots, au fracas du canon, au son de la musique, aux strophes de l'épithalame en vieux vénitien que l'on ne comprenait plus. La fête d'Elie Marie, des Maries, rappelait les fiançailles, l'enlèvement et la recousse de 12 jeunes filles, lorsqu'en 944, elles furent ravies par des pirates de Trieste et délivrées par leurs parents de Venise. Chacune d'elles, au moment de l'enlèvement, portait une cuirasse d'or brodée en perles. Dans la fête commémorative, la cuirasse était changée en chapeau de paille dorée, en orange de Malte et en vin de Malvoisie. Au mois de juillet, à la Sainte-Marthe, des gondoles illuminées promenaient des banquets errants sur les canaux, au milieu des palais déshabités. La fête dure encore chez le peuple, elle est passée chez les grands. Le monastère de Saint-Zacharie fournissait l'occasion et le but d'une solennité pompeuse. Les chefs de la République s'y rendaient sur des barques dorées en souvenir du corneau d'Oucalé, dont les religieuses et l'abbesse du couvent avaient jadis fait présent au doge. Ce corneau d'Oucalé était d'or, festonné de 24 grosses perles, surmonté d'un diamant à 8 facettes, d'un énorme rubis et d'une croix d'opales et d'émeraudes. Je m'attendais à quelque chose de ces fiancées, de ces pommes et fleurs d'oranger, de ces joyaux transformés en riantes parures, de ces repas mêlés de chants et de malvoisie, et je vis de lourds soldats autrichiens, en sarraux et en souliers gras, valser ensemble, pipe contre pipe, moustache contre moustache. Saisi d'horreur, je me jetais dans ma gondole pour regagner Venise. La lagune était terne. La marée descendante découvrait des bancs de vase. Monsieur Ampère avait vu ce que je voyais lorsqu'il écrivait ces vers frappants de vérité. Cette onde qui s'en borne autour de moi s'étend, d'où l'on distingue à peine une lande mouillée, sans habitants, sans arbres et d'herbes dépouillées, d'où, quand la mer descend, sortent quelques îlots comme une éponge molle, imprégnée par les eaux. Je suis heureux de croiser encore la route de ce même jeune homme qui, poète français en Italie, littérateur slave en Bohême, marche vers l'avenir quand je retourne au passé. Ce m'est une consolation de rencontrer à la fin de mon voyage ces enfants de l'aurore qui m'accompagnent à mon dernier soleil. Tout n'est donc pas épuisé? Allons, ces soldats de la jeune garde rendront aux vétérans le reste du chemin plus court et les bivouacs moins rudes. Philippe de Comines a décrit les lagunes de son temps. Guillemets. Environ la dite cité de Venise, y a bien 70 monastères, à moins de 2 000 lieues françaises, à le prendre en rondeur. Et est chose étrange de voir si belles et si grandes églises fondées en la mer, tant de clochers, et si grands maisonnements tout en l'eau, et le peuple n'avoir d'autre forme d'aller qu'en ces petites barques, gondoles,
dont je crois qu'il s'en finirait 30 000.
Fin des guillemets. Je fouillais avec mes yeux dans les îles pour retrouver ces couvents. Quelques-uns ont été abattus, d'autres convertis en établissements civils ou militaires. Je me promettais de visiter les savants moines orientaux. Mon neveu, Christian de Chateaubriand, a écrit son nom sur leur livre. On l'a pris pour le mien. Ces religieux étrangers ignorent même ce qui se passe à Venise, à peine ont-ils entendu parler de la vie de Lord Byron, qui faisait semblant d'étudier l'arménien chez eux. Ils donnent des éditions de Saint-Chrysostome. loin de leur patrie, habitant le passé, ils vivent dans la triple solitude, de leur petite île, de leurs études et de leur cloître. Comines parle de 30 000 gondoles. La rareté de ces nacelles, aujourd'hui, atteste la grandeur du naufrage. Guillemet. Je prenais la gondole, dit Goethe, pour un berceau doucement balancé, et la caisse noire qu'elle porte me semblait un cercueil vide. Eh bien, entre le berceau et le cercueil, insouciant, allons là-bas, flottant et chancelant, le long du grand canal, à travers la vie. Fin des guillemets. Ma gondole, au retour du Lido, suivait celle d'une troupe de femmes qui chantaient des vers du Tasse. Mais au lieu de rentrer à Venise, elles remontèrent vers Palestrine, comme si elles eussent voulu gagner la haute mer. Leur voix se perdait dans l'unissonance des flots. Ô vent, mes concerts et mes songes! Tout change à tout moment et à toujours. Je tourne la tête en arrière et j'aperçois comme d'autres lagunes ces lagunes que je traversais en 1806 allant à Trieste. J'en emprunte la vue à l'itinéraire. Guillemets. Je quittais Venise le 28 juillet et je m'embarquais à 10 heures du soir pour me rendre en terre ferme. Le vent du sud-est soufflait assez pour enfler la voile, pas assez pour troubler la mer. À mesure que la barque s'éloignait, je voyais s'enfoncer sous l'horizon les lumières de Venise, et je distinguais, comme des taches sur les flots, les différentes ombres des îles dont la plage est semée. Ces îles, au lieu d'être couvertes de forts et de bastions, sont occupées par des églises et des monastères. Les cloches des hospices et des lazarets se faisaient entendre et ne rappelaient que des idées de calme et de secours au milieu de l'empire des tempêtes et des dangers. Nous nous approchâmes assez d'une de ces retraites pour entrevoir des moines qui regardaient passer notre gondole. Ils avaient l'air de vieux nautonniers rentrés au port après de longues traversées. Peut-être bénissaient-ils le voyageur car ils se souvenaient d'avoir été comme lui, étrangers dans la terre d'Égypte. Fuistis enim et vos advenae in terra Egypti. Fin des guillemets. Le voyageur est revenu. A-t-il été béni? Il a repris ses courses. Sans cesse errant, il ne fait plus que repasser sur ses traces. Revoir ce qu'on a vu, dit Marc Aurèle, c'est recommencer à vivre. Moi, je dis, c'est recommencer à mourir. Enfin, des nouvelles de Madame la Duchesse de Berry m'attendaient à l'hôtel de l'Europe. La princesse de Beaufremont, arrivée à Venise et descendue au Lion Blanc, désire me parler demain, mardi 17, à 11 heures. Dans ma course au Lido, vous l'avez vu, je n'ai pu atteindre la mer. Or, je ne suis pas homme à capituler sur ce point. De crainte qu'un accident ne m'empêche de revenir à Venise une fois que je l'aurai quittée, je me lèverai demain avant le jour et j'irai saluer l'Adriatique. Mardi 17. J'ai accompli mon dessein. Débarqué à l'aube en dehors de Saint-Nicolo, j'ai pris mon chemin en laissant le fort à gauche. Je trébuchais parmi des pierres sépulcrales. J'étais dans un cimetière sans clôture où jadis on avait jeté les enfants de Judas. Les pierres portaient des inscriptions en hébreu. Une des dates est de l'an 1435, et ce n'est pas la plus ancienne. La défunte juive s'appelait Violante. Elle m'attendait depuis 398 ans pour lire son nom et le révéler. À l'époque de son décès, le doge Foscari commençait la série des tragiques aventures de sa famille. Heureuse la juive inconnue, dont la tombe voit passer l'oiseau marin si elle n'a pas eu de fils. Entre parenthèses, Madame Sand a placé une scène de Léoné Léoni dans ce cimetière juif du Lido. Note de 1838, note de l'auteur. Au même lieu, un retranchement fait avec des voliges de vieilles barques protège un nouveau cimetière. Naufrage remparé des débris de naufrage. À travers les trous des chevilles qui cousirent ces planches à la carcasse des bateaux, j'épiais la mort autour de 2 urnes cinéraires. Le petit jour les éclairait. Le lever du soleil sur le champ où les hommes ne se lèvent plus et plus tristes que son coucher. Depuis que les rois sont devenus les chambellans de Salomon, baron de Rothschild, les Juifs ont à Venise des tombes de marbre. Ils ne sont pas si richement enterrés à Jérusalem. J'ai visité leur sépulture au pied du temple. Lorsque je songe la nuit que je suis revenu de la vallée de Josaphat, je me fais peur. À Tunis, au lieu de cendriers d'albâtre, dans le cimetière des Hébreux, on aperçoit au clair de la lune des filles de Sion voilées, assises comme des ombres sur les fosses. La croix et le turban viennent quelquefois les consoler. Chose étrange pourtant, que ce mépris et cette haine de tous les peuples pour les immolateurs du Christ. Le genre humain a mis la race juive au lazaret, et sa quarantaine proclamée du haut du calvaire ne finira qu'avec le monde. Je continuais de marcher en m'avançant vers l'Adriatique. Je ne la voyais pas, quoique j'en fusse tout près. Le Lido est une zone de dunes irrégulières assez approchante des buttes arèneuses du désert de Saba, qui confinent à la mer morte. Les dunes sont recouvertes d'herbes coriaces. Ces herbes sont quelquefois successives, quelquefois séparées en touffes, elles sortent du sable chauve, comme une mèche de cheveux restée au crâne d'un mort. Le rampant du terrain vers la mer est parsemé de fenouilles, de sauges, de chardons à feuilles gladiées et bleuâtres. Les flots semblent les avoir peintes de leurs couleurs. Ces chardons épineux, glauques et épais, rappellent les nopales et font la transition des végétaux du nord à ceux du midi. Un vent faible rasant le sol sifflait dans ces plantes rigides. On aurait cru que la terre se plaignait. Des eaux pluviales stagnantes formaient des flaques dans des tourbières. Ça et là, quelques chardonnerets voletaient avec de petits cris sur des buissons de joncs marins. Un troupeau de vaches parfumées de leur lait et dont le taureau mêlait son sourd mugissement à celui de Neptune me suivait comme si j'eusse été son berger. Ma joie et ma tristesse furent grandes quand je découvris la mer et ses froncils grisâtres à la lueur du crépuscule. Je laisse ici sous le nom de rêverie un crayon imparfait de ce que je vis, sentis et pensais dans ces moments confus de méditations et d'images. Chapitre 18. Venise, 17 septembre 1833. Rêverie au Lido. Il n'est sorti de la mer qu'une aurore ébauchée et sans sourire. La transformation des ténèbres en lumière, avec ses changeantes merveilles, son aphonie et sa mélodie, ses étoiles éteintes tour à tour dans l'or et les roses du matin, ne s'est point opérée. Quatre ou cinq barques serraient le vent à la côte. Un grand vaisseau disparaissait à l'horizon. Des mouettes posées marquetaient en troupe la plage mouillée. Quelques-unes volaient pesamment au-dessus de la houle du large. Le reflux avait laissé le dessin de ses arceaux concentriques sur la grève. Le sable guirlandé de fucus était ridé par chaque flot, comme un front sur lequel le temps a passé. La lame déroutante enchaînait ses festons blancs à la rive abandonnée. J'adressais des paroles d'amour aux vagues, mes compagnes, ainsi que de jeunes filles se tenant par la main dans une ronde, elles m'avaient entourée à ma naissance. Je caressais ces berceuses de ma couche. Je plongeais mes mains dans la mer. Je portais à ma bouche son eau sacrée, sans en sentir l'amertume. Puis je promenais aux limbes des flots, écoutant leur bruit dolent, familier et doux à mon oreille. Je remplissais mes poches de coquillages dont les vénitiennes se font des colliers. Souvent je m'arrêtais pour contempler l'immensité pélagienne avec des yeux attendris. Un mât, un nuage, c'était assez pour réveiller mes souvenirs. Sur cette mer, j'avais passé, il y a longues années. En face du Lido, une tempête m'assaillit. Je me disais, au milieu de cette tempête, que j'en avais affronté d'autres, mais qu'à l'époque de ma traversée de l'océan, j'étais jeune, et qu'alors les dangers m'étaient des plaisirs. Entre parenthèses, itinéraire note de l'auteur. Je me regardais donc comme bien vieux lorsque je voguais vers la Grèce et la Syrie. Sous quel amas de jours suis-je donc enseveli? Que fais-je maintenant aux steppes de l'Adriatique? Des folies de l'âge voisin du berceau. J'ai écrit un nom tout près du réseau d'écume où la dernière onde vient mourir. Les lames successives ont attaqué lentement le nom consolateur. Ce n'est qu'au 16e déroulement qu'elles l'ont emporté, lettre à lettre et comme à regret. Je sentais qu'elles effaçaient ma vie. Lord Byron chevauchait le long de cette mer solitaire. Quelles étaient ses pensées et ses chants, ses abattements et ses espérances? Élevait-il la voix pour confier à la tourmente les inspirations de son génie? Est-ce au murmure de cette vague qu'il emprunta ses accents? « If my fame should be, as my fortunes are, of hasty growth and blights, and dull oblivion bar, my name from out the temple, where the dead are honored by the nations, let it be. » Si ma renommée doit être comme le sont mes fortunes, d'une croissance hâtive et frêle, si l'obscur oubli doit rayer mon nom du temple où les morts sont honorés par les nations, soit. Byron sentait que ses fortunes étaient d'une croissance frêle et hâtive. Dans ses moments de doute sur sa gloire, puisqu'il ne croyait pas à une autre immortalité, il ne lui restait de joie que le néant. Ses dégoûts eussent été moins amers, sa fuite ici-bas moins stérile, s'il eût changé de voie. Au bout de ses passions épuisées, quelque généreux effort l'aurait fait parvenir à une existence nouvelle. On est incrédule parce qu'on s'arrête à la surface de la matière. Creusez la terre, vous trouverez le ciel. Voici la borne au pied de laquelle Byron marqua sa tombe. Était-ce pour rappeler Homère enseveli sur le rivage de l'île d'Ios? Dieu avait mesuré ailleurs la fosse du poète que je précédais dans la vie. Déjà j'étais revenu des forêts américaines lorsqu'auprès de Londres, sous l'orme de Childarold enfant, je rêvais les ennuis de René et le vague de sa tristesse. Entre parenthèses, voyez le livre 12, première partie, note de l'auteur. J'ai vu la trace des premiers pas de Byron dans les sentiers de la colline d'Arao. Je rencontre les vestiges de ses derniers pas à l'une des stations de son pèlerinage. Non, je les cherche en vain, ces vestiges. Soulevés par l'ouragan, le sable a couvert l'empreinte des fers du coursier demeuré sans maître. Pêcheur de Malamoco, as-tu entendu parler de Lord Byron? Il chevauchait presque tous les jours ici. Sais-tu où il est allé? Le pêcheur a regardé la mer, et la mer s'est souvenue de l'ordre que lui donna le Christ. Tace ob mutesque, tais-toi, sois muette. Virgile, avant Byron, avait franchi le golfe redouté du poète de Tibure. Qui ramènera d'Athènes Byron et Virgile? À ces mêmes plages, Venise pleure ses pompes. Le Bucentaure n'y baigne plus ses flancs d'or à l'ombre de sa tente de pourpre. Quelques tartanes se cachent derrière les capes déserts comme au temps primitif de la République. Un jour fut d'orage. Prêt à périr entre Malte et les Syrtes, j'enfermai dans une bouteille vide ce billet. F. A. de Chateaubriand, naufragé sur l'île de Lampedouse, le 26 décembre 1806, en revenant de la Terre Sainte. Entre parenthèses, itinéraire, note de l'auteur. Un verre fragile, quelques lignes ballottées sur un abîme, et tout ce qui convenait à ma mémoire. Les courants auraient poussé mon épitaphe vagabonde au lido, comme aujourd'hui le flot des ans a rejeté à ce bord ma vie errante. Dinelli, capitaine en second de ma polaque d'Alexandrie, était vénitien. Il passait de nuit avec moi 3 ou 4 heures du sablier, et chantant au coup des rafales. Si tanto mi piace, si rara bella, io perdero la pace, quando se destera. Dinelli s'est-il reposé sul margine d'un rio, auprès de sa maîtresse endormie? S'est-elle réveillée? Mon vaisseau existe-t-il encore? A-t-il sombré? A-t-il été radoubé? Son passager n'a pu faire ajuster sa vie. Peut-être ce bâtiment dont j'aperçois la vergue lointaine est le même qui fut chargé de mon ancienne destinée. Peut-être la carène démembrée de mon esquif a-t-elle fourni les palissades du cimetière israélite. Mais ai-je tout dit dans l'itinéraire sur ce voyage commencé au port de Desdémone et fini au pays de Chimène? Allais-je au tombeau du Christ dans les dispositions du repentir? Une seule pensée remplissait mon âme. Je dévorais les moments. Sous ma voile impatiente, les regards attachés à l'étoile du soir, je lui demandais l'aquilon pour cingler plus vite, comme le cœur me battait en abordant les côtes d'Espagne. Que de malheurs ont suivi ce mystère! Le soleil les éclaire encore, la raison que je conserve me les rappelle. Venise, quand je vous vis, un quart de siècle écoulé, vous étiez sous l'empire du grand homme, votre oppresseur et le mien. Une île attendait sa tombe, une île est la vôtre. Vous dormez l'un et l'autre immortels dans vos saintes Hélènes. Venise, nos destins ont été pareils. Mes songes s'évanouissent à mesure que vos palais s'écroulent. Les heures de mon printemps se sont noircies comme les arabesques dont le faîte de vos monuments est orné. Mais vous périssez à votre insu. Moi, je sais mes ruines. Votre ciel voluptueux, la vénusté des flots qui vous lavent, me trouvent aussi sensible que je le fus jamais. Inutilement je vieillis, je rêve encore mille chimères. L'énergie de ma nature s'est resserrée au fond de mon cœur. Les ans, au lieu de m'assagir, n'ont réussi qu'à chasser ma jeunesse extérieure, à la faire rentrer dans mon sein. Quelles caresses l'attireront maintenant au dehors pour l'empêcher de m'étouffer? Quelle rosée descendra sur moi? Quelle brise émanée des fleurs me pénétrera de sa tiède haleine? Le vent qui souffle sur une tête à demi dépouillée ne vient d'aucun rivage heureux.